La première, 9h-11h,
entrée sans frapper.
Ce matin, dans Entrée sans frapper, nous commémorons la mémoire d'un artiste 50 ans après sa disparition. Cet artiste, c'est Walt Disney, Walter Elias Disney, dit Walt Disney, est né le 5 décembre 1900 à Chicago et il est décédé le 15 décembre 1966 à Burbank, en Californie. Alors pour évoquer le travail et l'œuvre, mais aussi l'héritage de cet artiste, nous avons ce matin en studio Pierre Lambert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'animation et sur les studios Disney. On vous doit entre autres « Il était une fois Walt Disney », aux sources de l'art des studios Disney. On vous doit aussi le catalogue de l'exposition « Il était une fois Walt Disney ». C'était au Grand Palais à Paris en 2006. Et puis, vous avez aussi fait, entre autres, « Walt Disney, l'âge d'or chez Démons et Merveilles ». C'était en 2006. Soyez le bienvenu dans cette émission. Et puis, bien sûr, il y a aussi Hugues Daillé, le monsieur cinéma de la RTVF. Bonjour Hugues.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Bon, évidemment, cette première question, elle est toujours compliquée parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Walt Disney. Ben, je dirais avant tout, c'était, il le disait lui-même, Walt Disney n'était pas un grand dessinateur, mais c'était surtout un visionnaire. C'est comme ça qu'on peut le qualifier, Pierre Lambert, comme un visionnaire.
Ah oui, bien sûr, c'était un visionnaire et surtout, c'était quelqu'un qui était très sensible à ce qui l'entourait, comme beaucoup d'artistes. Vous savez, il a grandi à la campagne, dans un environnement plutôt un peu difficile avec ses parents, enfin son père qui était assez autoritaire. Mais pour lui, heureusement, il était dans la campagne avec les animaux. Et c'est ce qui l'a beaucoup inspiré pour faire ses films par la suite. Donc cet environnement l'a marqué et il s'en est servi ensuite durant toute sa vie.
Hugues,
effectivement, il a été très très influencé. Pierre Lambert le dit très bien, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui, un petit peu comme un autre grand artiste plus près de chez nous, comme Hergé, on pourrait le définir comme une éponge, c'est-à-dire qu'il a absorbé énormément de choses et qu'il l'a, il les a mis à, on pourrait dire vulgairement, à sa sauce, qu'il les a régurgités jusqu'à faire oublier parfois la source originale, c'est-à-dire que pour plusieurs générations d'enfants, le physique de Blanche-Neige est lié au dessin animé de Disney. Le physique de Cendrillon est lié à la dégaine qu'elle a dans le dessin animé produit par Disney. Et donc, il a presque fait oublier les contes originels dont il s'est inspiré, ce qui est appréciable de façon... On peut l'apprécier de manière différente, mais en attendant, il y a quand même une force iconique chez Disney qui est indéniable.
Alors, c'est un visionnaire, un homme qui a des idées, qui comprend bien les choses, vous l'avez dit, messieurs, qui comprend son époque et qui comprend surtout les avancées technologiques de son temps. En 1927, Warner Bros. Sort au cinéma Le Chanteur de Jazz, c'est le premier film parlant, et Walt Disney se dit à ce moment-là, ben oui, le son, la musique, les paroles sont importantes, et il sort, en 1928, il sort Steamboat Willie. C'est le premier dessin animé, nous sommes en 1928, c'est le premier dessin animé avec un certain Mickey Mouse, Pierre Lambert.
Oui, effectivement, le tout premier dessin animé de Mickey qui est sorti en salle, c'est Steamboat Willie, premier dessin animé sonore de l'histoire du cinéma. Mais en réalité, il avait déjà réalisé entièrement un autre dessin animé qui était muet, qui s'appelait Plane Crazy, en hommage à Charles Lindbergh, qui était quasiment terminé. Et il a décidé au dernier moment d'arrêter la production pour créer Steamboat Willie, pour que ce soit le premier dessin animé sonore de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante, c'est que pour Plane Crazy, Ubiverse, qui est le vrai créateur graphique de Mickey, puisque Walt Disney dessinait tout à fait moyennement, il en est très lucide d'ailleurs, il a arrêté de dessiner à peu près vers 1923, et donc Ubiverse dessinait absolument tout, et pour Plane Crazy, il a entièrement animé le film, c'est à peu près 4000 dessins, créé le storyboard, et pour Steamboat Willie, il a fait à peu près les trois quarts du film. Donc Ubiverse est aussi le co-créateur de Disney, et quand j'en parle, j'ai écrit un livre sur Mickey il y a longtemps, mais c'est très important pour moi de dire quand même que Ubiverse est le co-auteur de Mickey, même si Mickey ressemble beaucoup à Walt Disney. Et c'est vrai qu'en 1928, lorsque sort ce premier film, suivi tout de suite de la mise en musique et en son de Plane Crazy, ainsi qu'un troisième film qui s'appelle Galloping Goat Show, c'est le succès immédiat qui va permettre à Disney de développer son studio, de développer sa technique du dessin animé, pour arriver à faire finalement le premier long métrage de l'histoire du dessin animé.
Qui est Blanche-Neige, qui sort en 1937, c'est quasi 10 ans plus tard. Petite question avant de revenir sur Blanche-Neige. Aujourd'hui, qui est plus connu, Mickey Mouse ou Walt Disney, Hugues ?
Disney est devenu une marque. Je crois quand même que la force de Walt Disney, c'est quand même... Il s'est lui-même mis en scène avec la réplique de son propre bureau dans un studio de télévision. Il présentait les documentaires animaliers. Il y a toute une génération qui a grandi avec ces images-là, aussi via le défunt Pierre Tchernia, qui était son ambassadeur en France et donc aussi en Belgique. Je pense que la figure de Walt Disney, son costume croisé, sa petite moustache, son sourire extrêmement cordial, a marqué quand même toute une génération. Certainement pas la génération actuelle qui va voir les produits Disney aujourd'hui, mais Mickey Mouse est presque devenu un logo, le logo de Disney, et le nom de Disney est devenu la marque de cette histoire. Et je crois que les deux sont devenus indissociables, mais finalement... C'est quand même assez étonnant de voir que Mickey a servi de porte-flambeau, mais qu'il n'y a pas, proportionnellement à toute la production des studios Disney, il n'y a pas énormément de films dévolus à Mickey lui-même. D'ailleurs, quand on pense à Mickey, on pense même au court-métrage, on pense plus facilement à Pluto et à Dingo, qui au départ sont des faire-valoir, mais qui sont plus drôles que Mickey lui-même, qui est d'une sorte de... la comparaison avec Tintin et le Capitaine, quoi. C'est une sorte de miroir pour le spectateur qui permet d'entrer dans l'œuvre, mais c'est pas le personnage le plus désopilant et le plus marquant, me semble-t-il.
Alors, Pierre Lambert, revenons justement sur ce premier long dessin animé, long métrage animé en couleur, parce que ça aussi, c'est une révolution. Nous sommes en 1937, et puis c'est Blanche-Neige.
Oui, effectivement. Enfin, la couleur est arrivée en 1932 avec Fleurs et Arbres, d'ailleurs pour lequel Disney a reçu son premier Oscar. Et en réalité, vous savez qu'il y a quand même eu 75 dessins animés de Mickey en noir et blanc, c'est beaucoup, hein. Il y en a eu autant en couleur, donc c'est quand même important. Mais ça, c'est vraiment sur une époque, enfin sur une période très très limitée. Et ensuite, en 1934, Disney a décidé de développer le scénario de Blanche-Neige pour en faire un long métrage. Donc ça a pris 3 ans à peu près. C'est suite aussi à un voyage en Europe où il a ramené beaucoup de livres adapté de contes européens. Et il y avait plusieurs possibilités. Blanche-Neige est venue naturellement en premier. Et donc, il a développé, avec une petite équipe d'une vingtaine de personnes, le scénario, le développement du film. Et ensuite, en 1935, la production a vraiment commencé avec toute l'équipe du studio. Il faut savoir que quand Disney a fait Steamboat Willie, ils étaient 10 personnes. Mm-hmm. 2 ans plus tard, ils étaient 200 personnes. 4 ans plus tard, ils étaient 400 personnes. Et pour Blanche-Neige, ils étaient presque 800 personnes. Donc ça donne quand même l'évolution du studio, elle était très importante, à la fois au niveau du nombre de personnes et au niveau de la qualité de artistique aussi, parce que des jeunes animateurs, des jeunes dessinateurs sont arrivés au studio et ont fait monter le niveau année après année de l'animation, un petit peu comme Pixar d'ailleurs, quand Pixar a été créé avec John Lasseter. Les années qui ont suivi ont vu l'arrivée de jeunes artistes très doués et qui ont fait monter la qualité du studio.
Et justement, on va encore parler de cette qualité et de ces dessins animés qui nous ont tous marqués, quelle que soit la génération. On fait une petite pause et puis on se retrouve juste après pour discuter encore de cet empire, de l'empire Disney. Une petite pause musicale, justement. C'est un tout nouveau disque qui vient de sortir. C'est les versions jazz de chez Disney. C'est jamais facile à dire, ça. Et ici, c'est Raphaël Gualazzi, I Wanna Be Like You. C'est un extrait du Livre de la Jungle. Walt Disney aimait le jazz, il en a beaucoup mis dans les bandes-sons de ses dessins animés. Et ce titre, I Wanna Be Like You, de Raphaël Gualazzi, est extrait de ce très bel album que je vous invite à écouter, Jazz Disney.
La première, 9h-11h, Entrée sans frapper. Nicolas Beutars.
Dans Entrée sans frapper, nous évoquons toujours la mémoire, ce grand personnage qui est Walt Disney et ce plus petit personnage, mais qui est tout aussi grand, qui est Mickey Mouse à l'occasion des 50 ans de sa disparition. C'était le 15 décembre 1966. Alors, on le disait, on parlait de Blanche-Neige et les Sept Nains sortis en 1937 avec un succès immédiat. Et puis, il y en a eu d'autres, mais c'est la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale éclate. Les dessins animés marchent moins bien et heureusement, après la Seconde Guerre mondiale, ça redémarre, Hugues.
Oui, ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que Disney était vraiment un artiste qui osait tout, parce que on imagine toujours uniquement une success story, mais il faut quand même se souvenir que il fait vraiment un quitte ou double avec le studio, par exemple en produisant Fantasia, qui est un film d'une audace inouïe pour l'époque, puisque utiliser exclusivement des morceaux de musique classique sans dialogue, sans gag, et essayer de trouver des sketchs narratifs qui sont en adéquation avec ces musiques, c'était quasi un film d'avant-garde. l'avant-garde et qui a, je pense que Pierre Lambert sera d'accord avec moi, c'était vraiment de l'avant-garde et ça a failli couler le studio. Ce qui a sauvé le studio à l'époque, c'est un tout petit film, un film beaucoup plus modeste, c'est Dumbo. Mais Dumbo qui est un film relativement bref, il fait à peine un peu plus d'une heure, une histoire toute simple et Dumbo a été un succès commercial. Mais tant avec le fait que Pinocchio n'a pas pu s'exporter pendant la guerre, enfin il y avait le blackout complet, donc il n'y avait pas de possibilité de recette mondiale pour le film, donc Pinocchio n'est pas rentable et Fantasia est super casse-gueule. Et puis après ça, il y a Dumbo qui sauve le studio, mais pour Disney, chaque film était une avancée technique. Il y a la caméra multiplane, il y a la couleur, il y a le son, il y a une entreprise comme Fantasia. Chaque fois, il essayait de pousser l'aventure plus loin et il n'était jamais à vouloir rééditer des recettes. Et ça, je pense qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il y avait quand même une vraie dimension d'aventurier chez Disney.
Parce que Pierre Lambert, Walt Disney va aussi encore plus loin en proposant, alors qu'il proposait entre guillemets que des films d'animation, il propose aussi, c'est son premier film, L'île au trésor. Et ça aussi, ça va beaucoup plus loin.
Alors, il y a quand même une chose à rajouter, c'est que, en réalité, c'est tous les films qui ont été faits, donc successivement, Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Bambi, qui est très important, et Dumbo, qui n'ont pas été projetés en Europe, à cause de la guerre évidemment, et ils ont dû attendre 1946, 47 et 48 pour sortir en Europe. Et grâce à ces succès en Europe au moment de leur ressortie, enfin leur première sortie européenne, ça a permis à Disney de financer Cendrillon, qui a été le film du renouveau. En réalité, le renouveau est arrivé grâce à l'Europe et au succès de tous ces films des années 30-40 qui sont sortis enfin en Europe. Et alors évidemment, après, il y a eu la prise de vue réelle, il y a eu surtout l'arrivée de la télévision, parce que Disney, ça l'intéressait beaucoup, la télévision. D'ailleurs, c'est ce qui a permis au parc de se créer en 1955. Hein. C'est l'accord entre ABC et Disney, puisque ABC a demandé à Disney de faire une émission hebdomadaire sur son studio, sur ses films, en échange de quoi il co-finançait le parc. Donc ça a été vraiment essentiel dans cette évolution. Et puis Disney s'est pris au jeu, donc vous l'avez raconté tout à l'heure, c'est amusant effectivement qu'il a recréé son propre bureau dans les studios pour pouvoir se filmer et présenter tous ses documentaires, ses anciens films, ses anciens courts-métrages, de nouveaux films, et puis il s'est beaucoup intéressé à la prise du vue réelle avec L'île au trésor et puis surtout les 20 minutes sous les mers évidemment. Oui, on peut penser à Kurt Douglas qui est quand même resté le film de référence en prise de vue réelle de Walt Disney.
Oui, qui était aussi le premier film fantastique en Technicolor, une avancée, une de plus. Alors, vous parliez, Pierre Lambert, de 1955, effectivement, avec l'ouverture de son premier parc d'attractions, le premier parc de Walt Disney. Et c'est vraiment à ce moment-là que Walt Disney est devenu non plus synonyme de dessin animé, mais de divertissement avec un grand D.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il y avait évidemment l'image du dessin animé, et puis ensuite il y a eu l'image du parc, mais il y a aussi l'image de la télévision, il ne faut pas oublier. Vous savez, il se mettait en scène, donc il tournait aussi des documentaires. Donc Walt Disney est devenu très célèbre aux États-Unis, physiquement, avec la télévision. Le parc est arrivé juste après, la télévision est arrivée juste avant. Donc en réalité, dans l'ordre, c'est les dessins animés, la télévision et le parc. Et puis après, ça faisait un tout, évidemment, donc il est devenu quelqu'un de célèbre à travers le monde. Mais enfin, il était par ses dessins animés dès le départ. C'est quand même ce qui a marqué le monde entier. Hein. Il était aimé dans le monde entier par ses dessins animés, parce qu'il a fait, évidemment, les plus beaux dessins animés qu'on ait jamais fait dans l'histoire du cinéma, tout simplement, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur. Après, il est devenu producteur. Quand on parle des films de Disney des années 50, 60, là, c'était vraiment un rôle de producteur. Mais dans les années 30, enfin, pour Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia et Bambi, c'était un réalisateur avant tout.
Alors comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, Hugues Daillé, que ces films-là, de ces années-là, cartonnent encore aujourd'hui et fonctionnent encore aujourd'hui sur les nouvelles générations?
Mais je pense que Pierre Lambert l'a déjà évoqué, c'est qu'il s'est entouré des meilleurs dessinateurs. Pour m'intéresser aussi beaucoup à la bande dessinée, je vois que dans le monde des graphistes, dans le monde de la bande dessinée, tout le monde connaît en fait le nom des animateurs de Walt Disney, ce qui n'est pas le cas du grand public, mais ceux qu'on a appelés les Nine Old Men, c'est-à-dire c'était un surnom affectueux qui leur donne, donc qui étaient des chefs animateurs, que ce soit Woolly Redderman qui réalise le livre de la jungle, que ce soit Ward Kimball, enfin tous ces noms qui sont inconnus du grand public, et le duo de pédagogues extraordinaires qui ont fait des livres sur l'art de l'animation chez Disney, à savoir Frank Thomas et Ollie Johnson, ce sont des dessinateurs, mais surdoués. Et je lisais récemment dans un livre sur Disney, quand on voit la relation humaine qu'il parvienne à créer entre Mowgli et Baloo, la relation de complicité, d'amitié. Franck Thomas disait que c'était une des plus belles choses qu'on a réussi. Et c'est vrai qu'avec un papier et un crayon, arriver à faire naître des émotions aussi subtiles que la complicité et le déchirement de la fin du livre de la jungle, c'est somptueux. Je veux dire, ce sont des artistes parmi les plus grands dessinateurs du XXe siècle. Et quand Pierre Lambert dit que Walt Disney est devenu producteur et a pris du champ, finalement, c'est, évidemment, c'est tout à fait exact, mais il avait quand même un œil, il gardait un œil extrêmement décisif sur ses productions. Je reprends l'exemple du livre de la jungle, qui est le dernier auquel il a... Mais il n'a pas vu le film sorti, puisqu'il est, il est mort avant la sortie du film, mais il a quand même dit, là, vous avez Baloo, vous tenez un personnage extraordinaire, il faut le faire revenir. Et ça ne doit pas être uniquement un film à sketch avec Mowgli qui rencontre plusieurs animaux dans la jungle. Il faut développer ça. Donc, il avait une sorte de regard de script doctor, si vous voulez, qui faisait que il trouvait immédiatement la clé pour que la narration du film soit passionnante de bout en bout. Et ce que Lasseter, John Lasseter de Pixar, m'a répété régulièrement, c'était la formule « un rire, une larme ». C'est-à-dire qu'il faut très 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 bien équilibrer le rapport entre émotion